Alors le constat qu'on fait tous les deux, donc mon collègue et moi-même, c'est un constat que l'ADN fascine. C'est-à-dire que les gens savent plus ou moins ce que c'est, hein, on a tous entendu parler. C'est un terme qui en plus est extrêmement utilisé maintenant. On parle d'ADN des marques, d'ADN des entreprises, d'ADN d'une association. Enfin, donc c'est aussi un terme qui a été réapproprié par beaucoup de monde, mais qui garde, et je pense que c'est aussi une des raisons de cette réappropriation importante, c'est qu'il a un pouvoir de fascination. Il y a cet aspect super-héros. L'ADN justicier qui va dire peut-être qui est finalement le meurtrier du petit Grégory. Bon, ça n'a pas marché, hein. Mais ils ont 20 ans après pu relancer l'affaire en se demandant est-ce que l'ADN allait parler. Régulièrement, ça fait la une des journaux. Il y a aussi l'ADN généalogiste où de plus en plus, j'en parlerai un petit peu, il y a des sites internet qui vendent avec votre ADN, on va vous donner votre origine. Il y a toutes ces promesses qui sont faites autour de la médecine révolutionnaire personnalisée qu'on va pouvoir développer grâce aux analyses ADN. Donc il y a toute cette dimension qui, enfin c'est ce que je peux constater, après peut-être que ici ce n'est pas le cas, exerce un pouvoir de fascination important. Et du coup, une anesthésie assez forte de l'esprit critique. Et qui fait que j'ai été plusieurs fois étonnée de voir des gens qui sont capables d'esprit fortement critique dans bien des situations, mais qui, face à l'ADN, ou des questions qui entourent l'ADN, bien, ouais, peut-être, sont plus fascinés que par d'autres technologies. Et donc l'objectif un peu de ce livre et puis de quelques propos que je vais tenir aujourd'hui, c'est essayer de remettre les choses un peu en place et de voir qu'est-ce que l'ADN, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui avec cette molécule, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la molécule non plus, on n'est pas du tout là pour faire un cours de biologie, mais simplement quels sont les éléments qu'il faut avoir en tête quand il s'agit de réfléchir au débat qui se pose à chacun de nous ou à tous collectivement autour de l'usage de cette molécule. Alors pour commencer, je vais commencer par une interpellation qui m'a été faite en 2008 par le biais de la Fondation Sciences Citoyennes. C'est un militant anti-publicitaire qui s'appelle François Vaillant, qui contacte, alors je pense qu'il a contacté Jacques Testard au départ, en lui disant « voilà, je suis poursuivi en justice parce que j'ai refusé de donner mon ADN ». Est-ce que vous accepteriez ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui accepterait de venir témoigner pour moi à mon procès ? Alors donc, Jacques a gentiment dit Catherine, généticienne, elle pourra faire ça très bien à ma place. Je t'en remercie publiquement, Jacques, parce que c'est là le début pour moi d'une interaction avec beaucoup de monde autour de cette question de la génétique qui a été extrêmement, je pense, féconde pour moi dans mes réflexions et aussi pour les combats collectifs qu'on peut avoir ou être en train de mener. Et donc, François me dit... donc. Quand même une situation, comment ça se fait que ce militant anti-publicitaire se retrouve poursuivi parce qu'il a refusé de donner son ADN ? Eh bien parce que depuis maintenant 2003, toute personne qui est arrêtée ou mise en cause pour une grande liste de délits ou de crimes, donc c'est à peu près tous les délits, sérieux hein, quand même, à l'exception des délits du code de la route, des délits au droit des étrangers et des délits, financiers. Eh bien, toute personne qui est arrêtée ou simplement mise en cause peut se voir demander donner un peu de salive pour que son ADN soit analysé, que ces analyses soient stockées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fichier ADN, quoi, comme on l'appelle. C'est-à-dire que c'est un fichier qui a été créé en 1998 suite à l'affaire Guy Georges, qui était un violeur multirécidiviste qui avait donc défrayé la chronique. Et à ce moment-là, donc, ils ont mis en place un fichier qui était censé avoir les empreintes génétiques des personnes qui étaient condamnées pour des crimes ou des délits sexuels. Et puis ensuite, il y a eu le 11 septembre 2001, et donc toute cette dérive sécuritaire s'est bien mise en place. Et donc il y a eu différentes lois qui ont été votées, et en 2003, notamment, l'élargissement donc aux condamnés et aux mises en cause. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dernières estimations que j'ai pu voir, c'est qu'il y a au moins 2 millions de personnes qui sont dans le fichier, dont près de 70% sont des personnes qui n'étaient que mises en cause et pas condamnées au moment où on leur a demandé de donner leur ADN. Alors, il y a une précision supplémentaire à ajouter, c'est que si vous êtes dans ce fichier, eh bien, très vraisemblable, enfin, avec une grande probabilité, ça veut dire aussi qu'on peut utiliser ce fichier pour les personnes qui vous sont proches dans les familles, à savoir vos parents, vos frères et sœurs et vos enfants. Au moins ces personnes-là, et peut-être plus. Donc, un calcul rapide fait qu'il y a à peu près au moins 10 millions de personnes qui sont concernées directement par ce fichier. Alors donc, puisqu'il avait fait un barbouillage publicitaire, donc un barbouillage de panneaux publicitaires, il avait été condamné à je ne sais plus quelle somme, de 100 ou 150 euros pour cet acte. Et du coup, suite à la condamnation, il avait été convoqué par la gendarmerie pour donner son ADN. Il avait refusé. Et en 2003, ils ont également introduit un nouvel article dans la loi qui est que refuser de donner son ADN dans ce contexte est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. C'est un délit, on n'a pas le droit de refuser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais toutes les personnes qui refusent sont susceptibles d'être poursuivies pour ce refus. Et donc, François Vaillant me dit, non, mais hors de question que je donne mon ADN, moi je ne veux pas rentrer dans ces fichiers. Et là où il m'interpellait, parce qu'il n'avait pas forcément besoin de moi pour justifier son refus, hein, on l'a bien vu dans les différents débats et théâtres forums, mais ce qu'il voulait savoir, c'était qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec mon ADN ? Qu'est-ce qui me dit qu'on ne va pas pouvoir faire des choses sans me prévenir ? Et ce fichier, une fois qu'il est constitué, qu'est-ce que d'autres personnes, si d'autres personnes mettaient la main dessus, pourraient faire de cette information ? Alors, avant de... Enfin, donc je me sers de cette histoire pour vous raconter plein de choses, hein, évidemment. Alors, il faut peut-être faire une précision sur qu'est-ce qui est exactement dans ce... Qu'est-ce qu'on garde comme information dans ces fichiers ? On dit les fichiers ADN. Mais en réalité, ce n'est pas l'intégralité de l'ADN. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'ADN, c'est une molécule qui est en chacun de nous. Chacun a une molécule d'ADN, quelque chose qui est très très long. Et ce n'est absolument pas toute cette information qui est stockée. Pour faire court, l'image que j'ai trouvée qui fonctionne, je pense, c'est imaginons que votre ADN, c'est la ville de Paris. On ne va pas faire une photographie exhaustive de toute la ville, on va simplement garder certains endroits de l'ADN qui correspondent à des endroits qui sont caractéristiques, qui sont susceptibles de vous être personnels. Donc on va faire une photographie de la Tour Eiffel, une photographie de l'Arc de Triomphe, une photographie de la place de la Concorde. Enfin, on va regarder un certain nombre d'endroits comme ça, qu'on appelle des segments, et qui sont susceptibles d'être différents d'une personne à l'autre. D'une ville à l'autre. Hein, si on prend que l'Arc de Triomphe, c'est pas forcément Paris. Ça peut être Paris ou Las Vegas ou je sais pas quelle autre ville où il y a des trucs qui ressemblent à l'Arc de Triomphe. Mais si on accumule le nombre de segments différents, on peut avoir une information qui vous est spécifique. Vous me suivez ? Donc, ce qui est conservé dans les fichiers, c'est cette information sur ces segments. Alors, au départ, en 1998, quand ils ont mis sur place le fichier, c'était que pour les délinquants sexuels, je l'ai dit, hein, et donc, on n'avait pas beaucoup de segments. Alors, c'est un peu technique, mais je pense que ça vaut le coup de suivre un peu ce raisonnement, parce que c'est vraiment un truc important. Alors, pourquoi on n'avait pas beaucoup de segments ? On avait 7 segments. Sur chaque personne, on regardait son ADN en 7 endroits et on conservait cette information sur 7 endroits. Alors c'était suffisant parce que la probabilité pour que deux personnes soient strictement identiques sur ces 7 segments, elle était très faible. Elle n'était pas, c'était pas des 1 sur 1 milliard de milliards, mais elle était très faible. Et comme on n'avait pas beaucoup de personnes, la probabilité que deux personnes soient identiques était vraiment très faible. Mais quand on a augmenté la taille du fichier, et qu'on s'est mis à prendre des personnes qui n'étaient pas seulement des délinquants sexuels. On s'attendait bien à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde dans le fichier. Et donc, si on avait conservé seulement 7 segments par personne, on risquait, même avec une probabilité faible, de se tromper, de faire des erreurs. Voilà. Et donc, on a augmenté le nombre de segments, puisque en augmentant ce nombre de segments, eh bien, on diminue la réalisation d'erreurs, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, depuis 2006, le fichier français, il est basé sur entre 16 et 18 segments. Donc ce n'est pas l'intégralité de votre information ADN qui est stockée, c'est cette information sur 16 ou 18 segments. Seulement, on a du coup plus d'informations que quand on n'avait que 7 segments. Et donc François Vaillant me dit, après que j'ai accepté de témoigner dans ce procès, avant le procès, me dit, m'envoie un mail un jour en disant « Oh là là, je viens de tomber sur une information. Certains de vos collègues de l'INSERM qui ont montré qu'il y aurait un lien entre une maladie génétique et des séquences non codantes d'ADN. Alors je dis, bah oui, ça, oui, pour moi c'était évident. Je vais vous expliquer. Mais pour moi c'était évident. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ADN c'est une molécule qui a été, on va dire, découverte et bien décrite autour des années 50. On ne va pas entrer dans le détail de qui a fait quoi. Mais au départ, quand on a essayé de comprendre à quoi elle servait, on avait une vision extrêmement mécanistique des choses. Et les chercheurs qui travaillaient sur le sujet avaient comme modèle pour décrire le fonctionnement de l'ADN qu'il y avait des zones de l'ADN qui servaient à quelque chose et des zones de l'ADN qui servaient à rien, schématiquement. Hein. Il y avait des zones qui servaient parce qu'à partir de ces zones, on avait l'information pour fabriquer des protéines. Et puis toutes les autres zones, on ne savait pas à quoi elles servaient. On avait décidé que du coup, on ne s'y intéressait pas et qu'on appelait ça de l'ADN poubelle. Hein, qu'il était là, on ne savait pas trop. On trouverait peut-être un jour pourquoi, mais que pour le moment, on pensait qu'on n'avait pas besoin de s'y intéresser. Donc il y avait une distinction entre les séquences dites codantes et les séquences dites non codantes. Et on pensait que toute l'information intéressante était celle des séquences codantes. Et donc quand on a choisi les segments à regarder pour mettre dans le fichier, on a appris les non codantes. Les non-codantes, puisque les non-codantes, elles étaient susceptibles d'être différentes d'une personne à l'autre, mais de ne pas apporter d'informations sur cette personne, puisqu'elles étaient choisies dans les régions non-codantes. Du coup, quand François Vaillant se rend compte qu'on a fait un lien entre une zone non-codante et une maladie, il dit bah, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec mon ADN ? On me dit que c'est non-codant et que du coup, ça risque rien. Mais si on peut faire un lien avec une maladie, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose avec mes séquences non-codantes qui sont dans le fichier. Alors moi, ma première réaction, c'est de dire « Oui, mais alors là, c'est une maladie très rare, il y a peu de chances pour que les séquences non codantes qui sont dans le fichier soient vraiment informatives, il y a très très peu de gens qui sont atteints par ces maladies, etc. » Puis bon, quand même, je me dis « Bon, c'est vrai que cette remarque est extrêmement pertinente, puisque depuis le début des années 90, il y a eu des gros gros investissements qui ont été faits dans la génétique humaine, en particulier pour financer ce qu'on a appelé le séquençage du génome humain, c'est-à-dire l'analyse intégrale de tout l'ADN d'un être humain. Et qu'ensuite, ça a généré tout un business extrêmement important, avec beaucoup d'entreprises qui se sont montées pour essayer d'améliorer la technologie. Et donc aujourd'hui, on est capable de faire des analyses très rapides de l'ADN de personnes à des coûts qui sont totalement dérisoires par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Et donc dans les laboratoires, nous, ce n'est pas 17 segments qu'on analyse, c'est 1 million, 2 millions de segments. On a des technologies qui nous coûtent... C'est pas rien, mais enfin c'est abordable et on s'en sert de façon routinière en recherche. Et donc on regarde effectivement énormément de choses sur l'ADN et beaucoup plus que 17 segments. Et dans toutes les études qui sont faites depuis des années sur plein de maladies, sur plein de choses, systématiquement il y a des résultats qui montrent qu'il y a des régions non codantes qui sont associées à des maladies. Donc on ne comprend pas forcément pourquoi, mais on se rend compte qu'effectivement il y a plein de choses qu'on pensait pas servir et pas avoir d'impact, et qui sont dans des régions non codantes. Donc cette remarque comme ça de François est extrêmement pertinente, et du coup je me suis dit, bon, eh bien, prenons son hypothèse au sérieux, et j'ai commencé à rechercher dans tout ce qui avait été produit par les collègues, parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait de la génétique dans le monde, et essayer de voir s'il n'y avait pas des gens qui avaient trouvé des résultats qui correspondaient exactement aux segments qui sont dans le fichier génétique. Et alors le résultat, je trouve le plus intéressant qu'on a trouvé, c'est que avec l'information qui est dans le fichier des empreintes génétiques, on peut avoir une information sur l'origine géographique des personnes. C'est-à-dire que il y a une équipe internationale menée par une Portugaise qui a montré qu'en prenant exactement les 16 ou 18 segments du fichier, on pouvait savoir à 90% si une personne était d'origine européenne, d'origine asiatique ou d'origine africaine. C'est assez large, hein, c'est pas des précisions énormes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'espèce humaine est une espèce assez très homogène génétiquement. Hein, globalement, par rapport aux chimpanzés, par exemple, il y a beaucoup moins de variations sur l'ADN entre deux humains qu'entre deux chimpanzés. On est globalement très homogène. Mais il y a quand même des différences, c'est-à-dire que en probabilité, les gens se font des enfants plutôt avec des gens qui habitent leur village, leur quartier, leur région, leur pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mélanges, mais il y a quand même globalement une reproduction qui se fait plutôt par zone. Et donc, en conséquence, l'ADN, il est plus souvent... les gens qui habitent une même région se ressemblent plus, comme si c'était un peu une grande famille, que des gens qui habitent très loin. Et donc, si on s'intéresse aux différences, eh bien, à partir de l'étude de ces différences, on peut remonter à l'origine géographique des personnes. Parce que comme il y a beaucoup d'études partout dans le monde, il y a des grandes bases de données qui ont été constituées avec ces informations. Et donc, on est capable de caractériser l'ADN des populations qui habitent en Afrique du Sud, qui habitent dans les différentes parties de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Asie. Et donc, quand on a l'ADN d'une personne, on peut regarder si, en utilisant des techniques statistiques de regroupement, si cette personne est plutôt d'origine africaine, européenne, etc. Alors à chaque fois, c'est des probabilités. On a rarement des certitudes. Enfin, on n'a même jamais des certitudes. On n'a que des probabilités qui sont plus ou moins importantes. Et donc, à partir de cette information, à l'exception des personnes qui sont très mélangées, parce qu'ils ont un parent africain, un parent et un autre parent asiatique, à ce moment-là, on va pouvoir dire qu'ils sont à 50% d'origine africaine et à 50% d'origine asiatique. Mais pour les autres, on va pouvoir, les personnes qui sont issues de mélanges moins importants, les associer à une population d'origine. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que l'information qu'on a aujourd'hui dans le fichier ADN est suffisante pour avoir cette information sur l'origine. Et pourquoi elle est suffisante, encore une fois, c'est parce qu'on a augmenté la taille du fichier, donc on a augmenté le nombre de segments pour éviter les erreurs, et donc en conséquence, on a une information qui dépasse simplement l'identification des personnes. Alors on a aussi identifié que des collègues avaient montré qu'il y a un de ces segments qui était associé à une maladie du sang qui était extrêmement rare. Bon, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose de cette information puisque c'est une maladie extrêmement rare et donc il y a vraisemblablement très peu de personnes dans le fichier qui sont atteintes de cette maladie. Enfin, on a pu le faire. Donc ça veut dire que potentiellement, peut-être d'ici quelques années, on fera d'autres recoupements et donc on sera capable de faire dire un peu plus d'informations à ces fichiers. Donc voilà, donc cette information, on l'a fait valoir auprès des tribunaux. On en a fait lors d'un autre procès, parce que ces procès se multiplient parce qu'il y a souvent des gens qui refusent. Et donc, bon, moi, évidemment, je ne suis pas de tous ces procès, mais ça peut arriver parfois avec les avocats qu'on arrive à faire un travail intéressant. Et donc, dans un des procès, on voulait faire remonter ça au Conseil constitutionnel pour dire, puisqu'on a démontré qu'on pouvait avoir une information sur l'origine géographique des personnes, alors le fichier est devenu inconstitutionnel, puisque normalement, ce fichier n'est pas censé avoir cette information, il n'est censé ne servir qu'à identifier les personnes. Donc on a fait une question prioritaire de constitutionnalité qui a été retoquée parce que la Cour de cassation nous a dit mais c'est pas la loi qui fixe les segments qui sont choisis, ça c'est un décret, et donc c'est pas une question de loi et donc ça peut pas rentrer sous le filtre de la question prioritaire de constitutionnalité. Bon, c'est un argument technique, hein. Bon, bah, là, le procès continue, et donc on va faire valoir, cette fois-ci, on va attaquer le décret, en disant, voilà, ces segments permettent de faire dire plus de choses que ce qu'on pensait. Mais d'une certaine façon, c'est insoluble, parce que ces 17 segments, ils n'ont absolument pas été choisis pour chercher l'origine géographique des personnes. Mais quand on prend 17 segments, on a assez d'informations, et avec ces 17 segments, on peut... même si on en prend d'autres, on pourra également avoir l'origine géographique des personnes. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir de cette question qui était posée par François, qui était une question qui se posait comme ça, sans savoir exactement ce qu'il y avait derrière, eh bien, moi, je me suis mise à chercher, parce que je me l'étais pas posée. Et qu'en déroulant la pelote, on est arrivé à construire un argumentaire qui, je pense, et pour en avoir discuté pas mal avec des juristes, est susceptible de tenir la route, pour peu qu'on prenne la bonne voie législative, est susceptible de tenir la route pour faire avancer les choses. Et puis en parallèle, donc, comme ces procès se multiplient, il y a un parlementaire qui a rédigé une proposition de loi pour demander que les personnes qui sont condamnées pour des délits liés à des expressions d'opinion ne soient plus passibles d'inscription au fichier. Donc là, elle n'a pas encore été présentée. Elle doit arriver normalement dans l'année qui vient. On va voir si ça va faire évoluer les choses. Mais ce qu'il y a de, je trouve, moins d'intéressant, c'est que ces procès sont des moments où on parle de l'ADN autrement, enfin de l'ADN et ses usages judiciaires, autrement que sous le coup de l'émotion d'un crime horrible qui a été commis, comme c'est souvent le cas dans la presse. Et ça, pour le coup, ça anesthésie toute possibilité de critique, parce que si on a pu utiliser le fichier pour résoudre un cas, comme ça arrive parfois, du coup, toute opposition au fichier apparaît comme irresponsable, et voire même, on entend régulièrement des gens qui disent qu'il faut ficher tout le monde, il faut que tout le monde soit dans les fichiers ADN, comme ça, on arrivera à résoudre tous les crimes, et puis de toute façon, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. C'est l'argument qu'on entend bien souvent. Alors évidemment, ce que soulève assez peu ces personnes, c'est le nombre d'erreurs qui sont susceptibles d'être commises si on ne se base que sur la preuve ADN. Parce que, encore une fois, l'ADN jouit d'une espèce d'image, de molécule miracle, scientifiquement, avec le sceau de la science, quoi. C'est-à-dire, si l'ADN dit, alors l'ADN a raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle qui peut être dite par l'ADN. En réalité, il y a plein de raisons qui peuvent conduire à commettre des erreurs. Alors, une des raisons les plus fréquentes, c'est les contaminations. C'est-à-dire qu'il y a une scène de crime, et puis on ramasse de l'ADN sur cette scène. Et en fait, l'ADN qu'on a ramassé n'est pas celui de la personne qui a commis le crime, mais d'une personne qui passait par là, ou, comme ça a été le cas en Allemagne il y a quelques années, il y a une série de crimes qui ont été rapprochés les uns des autres, qui avaient été commis à différents crimes et délits, qui avaient été commis à différents endroits du pays. Et à chaque fois, on retrouvait l'ADN de la même femme. On avait pu déterminer que c'était une femme, qui n'était pas dans aucune base de données, ni rien du tout. Et c'était assez étonnant pour les policiers, parce que ces affaires ne se ressemblaient pas vraiment. Donc le flair classique du policier était un peu mis à mal par ce recoupement. Et puis, 2 ans après, il a été annoncé qu'en fait, il s'agissait de l'ADN de la technicienne qui confectionnait les bâtonnets utilisés pour ramasser l'ADN, enfin les échantillons biologiques. Voilà. Donc c'était le fantôme de Heilbronn était en fait une technicienne de laboratoire. Et des histoires comme ça, j'ai l'impression que, je ne dis pas que c'est très fréquent, hein, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles arrivent, et que par exemple, dans l'histoire du petit Grégory, ils n'ont pas réussi à la résoudre parce qu'il y avait visiblement énormément de contamination. Et que de toute façon, on n'arrivait pas à faire la part des choses, parce que, en plus, quand il y a plein de... Il peut y avoir aussi des mélanges où il y a l'ADN du coupable, mais d'autres ADN qui sont également présents. Et analyser des mélanges, ça devient très compliqué, c'est source d'erreur, parce qu'à chaque fois, il faut faire des calculs de probabilité qui sont parfois très dépendants des hypothèses que font les statisticiens. Et donc, c'est une source d'erreur qui est absolument non négligeable. Donc, bon, voilà, c'est pas pour rentrer dans les détails de toutes ces sources d'erreurs, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a plein d'histoires de situations où l'ADN n'a absolument pas réponse à tout. Voilà. Et donc, c'est important de garder ça en tête, parce que dans les débats sur le fichage, à chaque fois, ça revient de dire « Ah, mais il faut ficher tout le monde ». Oui, mais enfin, pourquoi ? Est-ce que, quel est le bénéfice et quel est le risque ? Alors, pour continuer, donc, sur le fichier, on pourra en rediscuter largement après, si vous voulez qu'on en discute plus. Mais la question qu'on pourrait continuer à poser, c'est... Bon, d'accord, avec le fichier, on n'a que 17 segments, donc on peut avoir l'origine géographique, mais on ne peut pas avoir beaucoup plus de choses. Mais si on a tout l'ADN, parce qu'après tout, quand on prend l'ADN d'une personne, là, on ne regarde que 17 segments, mais on pourrait bien regarder l'intégralité. Qu'est-ce qu'on peut faire dire à un ADN ? Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans tous les détails, parce que ça serait des listes bien trop... bien peu intéressantes, mais juste rapidement, sur la question de l'aspect physique, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, c'est des déterminants qui sont relativement simples d'un point de vue génétique. C'est-à-dire que pour les yeux, c'est 2-3 gènes, 4 gènes, on sait, qui sont susceptibles de déterminer la couleur des yeux. Mais si on prend la taille, par exemple... Déjà, ça devient très compliqué. Il y a énormément d'études qui ont été faites. Et aujourd'hui, le consensus, enfin les derniers résultats, c'est plus de 200 régions différentes de l'ADN qui auraient un impact sur la taille, donc qui interviendraient dans la taille, mais qui n'expliqueraient que moins de 30% des différences de taille entre les personnes. Donc si on fait on essaye de faire un portrait robot à partir de l'ADN, on va pouvoir avoir à peu près la couleur des yeux, la couleur de la peau. Évidemment, si on a l'origine géographique, une personne qui est 100% d'origine africaine, on va pouvoir savoir qu'elle a plutôt la peau noire, mais enfin, il y a quand même des variations importantes. Donc on peut avoir des précisions un peu sur la couleur de la peau, mais sur la taille, par exemple, c'est un élément qui dépend de l'histoire familiale, mais l'histoire familiale, c'est pas seulement l'ADN, l'histoire familiale, c'est aussi tout ce qui est transmis, et en particulier les habitudes alimentaires, qui ont un impact et qui interagissent avec l'ADN. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas distinguer d'un côté l'aspect purement biologique d'un autre côté l'aspect purement éducation, environnement, alimentation, sport, etc. Parce que les deux sont en interaction permanente et on n'arrive pas du tout à faire une distinction simple entre les deux types de facteurs. Ce qui fait que les prévisions qu'on peut faire sur la base de l'ADN pour les caractères morphologiques sont globalement assez mauvaises. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire au mieux, c'est dire bah, cette personne a 40% de chance de mesurer plus d'un mètre 80. Ça sera juste un petit peu plus précis que si on savait simplement que c'était un homme d'origine caucasienne. Donc voilà. Et alors pour ce qui est des traits de comportement, là c'est pareil, il y a énormément d'études. On en a régulièrement des unes dans la presse. Le gène du QI, le gène de l'intelligence, le gène de la violence. Il y a eu tout un truc autour de gène de la violence parce que dans une famille hollandaise, il y avait des comportements extrêmement particuliers d'ordre totalement pathologique. Ils avaient identifié un gène qu'ils avaient appelé le gène Mao, qui semblait être associé à ce comportement pathologique dans la famille. Et ensuite, ils ont fait des études sur des grandes populations pour savoir si ce gène était retrouvé dans d'autres populations. Et donc, cette mutation spécifique de la famille n'était pas retrouvée dans les autres populations. Mais en revanche, il y a eu plein d'études qui se sont mis à regarder si, selon les populations, c'était plutôt telle version du Mao ou telle autre version. Et en Nouvelle-Zélande, il y a eu des études qui ont été publiées qui disaient que les aborigènes avaient plutôt la version associée à l'agressivité. Voilà. Donc les aborigènes étaient plus agressifs parce qu'ils avaient ce gène-là. Voilà. Évidemment, tous les stéréotypes sur les différences culturelles entre les populations sont passés au crible de cette vision de la génétique, sachant que derrière, les arguments strictement statistiques et biologiques sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on voit des différences, elles ne sont absolument pas fortes, et en plus, elles sont très peu robustes quand on refait les études avec une autre échantillon de population. En général, on ne retrouve absolument pas les mêmes résultats. Donc c'est quand même des annonces qui sont faites comme ça, parce que ça titille l'imaginaire de personnes qui... je pense qu'il y a un effet répulsion-fascination, c'est-à-dire qu'à la fois certaines personnes souhaitent et souhaiteraient pas que tout soit dans l'ADN. Or, on sait pertinemment qu'il y a plein de choses qui ne sont pas résolues uniquement par l'ADN, mais pourtant, les gens continuent à faire ce type d'études, et donc il y a régulièrement des choses sur ADN et comportement. Sur le QI, c'est la même chose. Je n'ai pas parlé du QI, mais enfin, sur le QI, de toute façon, la mesure en elle-même d'intelligence par le quotient intellectuel en soi est extrêmement critiquable. Et donc, comment faire un lien entre une réalité biologique, enfin une molécule biologique, je ne vais pas rentrer dans le débat réalité-irréalité, mais la molécule biologique et une mesure qui en elle-même est une construction. La nature n'a pas prévu des molécules qui vont être différentes selon la construction qu'on allait en faire de mesures d'intelligence des années après. Enfin. Et puis bon, en tout cas, il n'y a absolument rien de pertinent qui est produit, ce qui n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de production, beaucoup d'argent qui soit investi sur ces questions. Alors évidemment, le domaine dans lequel il y a le plus d'études, c'est la question des maladies. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'études sur les maladies. Alors au départ, c'était principalement des maladies génétiques, c'est-à-dire des maladies dans lesquelles on sait que l'ADN, enfin que la génétique, l'ADN a un rôle très important. C'est les maladies rares dont on parle au Téléthon. Donc ça, on pourra parler du Téléthon avec Jacques après, sans rentrer du tout sur cet événement et sur son sens, et on pourra en discuter avec plaisir, c'est simplement pour dire que c'est ces maladies qui sont dans lesquelles on sait que l'ADN a un rôle très important et que si les personnes sont porteuses de certaines mutations, elles ont vraiment une très grande chance de développer la maladie. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Il y a quasiment pour toutes les maladies, maintenant, on a identifié les gènes qui étaient impliqués. Mais à côté de ça, il y a énormément de travaux sur les gènes qui pourraient être impliqués dans toutes les autres maladies. qui sont les maladies fréquentes, quoi. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, l'asthme, la sclérose en plaques, quasiment toutes les maladies. J'avoue que toutes les maladies fréquentes, si on fait une recherche, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Pas toujours, au départ, pourquoi faire des études génétiques, c'est pas toujours très clair. Les arguments de départ sont pas toujours très pertinents. Mais puisqu'on a l'outil, il y a toujours des gens pour dire on va chercher. Donc il y a énormément d'études qui sont faites. Et évidemment, il y a toujours des exceptions, hein, mais globalement, les résultats qui sont obtenus depuis, je dirais, les 10 dernières années où il y a eu un saut technologique important sur les capacités d'analyser l'ADN sont globalement très décevants. C'est-à-dire qu'on a fait des études vraiment avec des nombres, des tailles d'échantillons énormes. On en est à faire des études où on a 100 000 personnes atteintes de cancer de la prostate, qu'on va comparer avec 100 000 personnes qui ne sont pas atteintes de cancer de la prostate, hein, 100 000 hommes. Et on trouve des résultats vraiment, vraiment décevants. C'est-à-dire que, décevants. En tout cas, l'ADN a un pouvoir d'explication qui est vraiment très faible. C'est-à-dire qu'on prédit très peu à partir de l'ADN qui va développer un cancer de la prostate et qui ne va pas le faire. Et pourtant, ça n'a pas empêché que se développe tout un business autour de ça. Puisque depuis 2008, il y a des sociétés qui se sont lancées, alors aux États-Unis, puisque c'est interdit en France, qui vendent des services directement aux consommateurs de tests. C'est-à-dire que le principe, c'est vous envoyez de l'argent. En échange, c'est un service de consommation, hein, donc en échange, vous recevez un petit bâtonnet, vous crachez dedans ou vous grattez l'intérieur de la joue, vous renvoyez, et puis on vous renvoie un code, vous allez sur Internet. Et là, ils ont passé au crible 1 million de segments sur votre ADN. Donc, ce n'est pas les 17 du FNAEG, du fichier, c'est les 1 million. Et ils ont fait des calculs pour savoir quels sont vos risques de développer la maladie d'Alzheimer, le cancer de la prostate. Tout y passe. Hein. Il y a 200 ou 300 choses qui y sont. Il y a même la couleur de vos yeux. Au cas où vous ayez des doutes sur la couleur de vos yeux, ils vous font calculer la probabilité que vous ayez les yeux bleus ou les yeux marrons. Et alors en fait, évidemment, c'est un service qui... les gens sont libres de le faire ou de ne pas le faire, hein, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est les risques qui sont donnés sont des risques qui sont faux. Parce que c'est des risques qui sont basés sur uniquement l'ADN, alors qu'on sait bien que le risque, si on est quelqu'un qui mange une certaine alimentation, qui fait du sport et qui fait ci, on sait très bien, comme toutes les études d'épidémiologistes ont pu montrer, que pour certaines maladies, ces facteurs-là avaient une importance. Et donc, si on fait un calcul de risque qui est basé uniquement sur l'ADN, on fait des calculs qui sont faux. Donc, c'est un business qui a été donc lancé en 2008. La première société, c'était une société qui s'appelle 23andMe, en anglais, donc ça fait 23 et moi, en référence au nombre de chromosomes, qui était fondée par la femme d'un des fondateurs de Google. Donc c'était un gros investissement de Google, avec évidemment derrière cet enjeu autour des bases de données et du croisement, parce que Google développe des trucs de Google Health, donc les grandes bases de données sur la santé, qui sont à croiser potentiellement avec l'information sur l'ADN. Ce business récréatif, parce que c'était l'idée de lancer un ADN pour s'amuser, quoi, parce que une fois qu'on est dans la base de données qu'on a payée, on peut faire, si on veut, on peut faire des comparaisons avec les autres personnes qui sont dans la base de données. Et donc on peut regarder s'il y a des cousins potentiels dans la base de données. Donc c'est vraiment un aspect récréatif, c'est-à-dire c'est votre information, elle est à vous, amusez-vous avec, créez du réseau social autour de votre ADN. Ça croise beaucoup des discussions qu'on a eues depuis 2 jours. Alors évidemment c'est un business pour le moment ça marche pas très fort. La plupart de ces entreprises ont fermé boutique ou ont complètement changé de leur fusil d'épaule. La société dont je parlais, la 23andMe, alors eux ils se sont positionnés sur on va faire de nouvelles bases de données pour la recherche. Et donc, ils se sont mis à demander aux gens qui avaient payé s'ils voulaient bien rentrer dans leurs études et donc de faire de la recherche. Et donc, il y a un des résultats qu'ils ont obtenus, qui, à mon sens, est vraiment un résultat fondamental pour l'avenir de l'humanité. Ils ont identifié 2 ou 3 gènes, je ne sais plus, qui sont impliqués dans le fait d'éternuer quand on va au soleil. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a dans cette salle, à qui ça arrive. Quand on passe de l'ombre au soleil, c'est mon cas, donc j'étais extrêmement touchée par cette découverte fondamentale, quand on passe de l'ombre au soleil, certaines personnes éternuent. Voilà. Et donc ils ont trouvé 3 gènes qui expliquent assez fortement, pour le coup, le fait d'éternuer ou pas au soleil. Bon, voilà. En tout cas, indépendamment de ces découvertes fondamentales pour l'avenir de l'humanité, ce qui est sûr, c'est que ces entreprises et cette, installent une espèce de culture, souhaitent, sont en train de construire un monde où avoir son information génétique, disposer de son ADN, d'abord ils revendiquent un droit à l'information génétique, un droit de savoir, un droit de connaître. Ils disent, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas l'information de savoir si vous avez telle information dans vos gènes. Donc ils revendiquent, ils construisent ça, et ils construisent ça comme un nouveau besoin auquel il faudrait que chacun d'entre nous ait envie d'avoir accès. Et donc ça, c'est un premier aspect. Et puis il y a aussi toute la question de l'utilisation de cette information dans les développements de la médecine. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, il y a des cas particuliers où on fait APA, où on analyse l'ADN en médecine. C'est encore une fois pour ces maladies dont je parlais tout à l'heure, les maladies familiales, les maladies génétiques, parce que on fait des analyses pour savoir si c'est, par exemple, pour poser un diagnostic, on va regarder si la personne a vraiment cette mutation-là, parce que si elle a cette mutation-là, alors ça aide grandement à définir la maladie dont elle est porteuse. Mais il y a plein d'autres maladies quand on a quand on a un infarctus du myocarde, quand on fait de l'asthme. Aujourd'hui, on fait absolument pas d'analyse génétique. C'est pas considéré comme une information importante. Mais évidemment, ces maladies-là, elles concernent beaucoup plus de monde. Et donc, si on arrive à faire en sorte que l'information génétique soit une information importante, jugée importante dans la démarche de soins, à ce moment-là, ça fait des marchés énormes qui sont potentiellement à construire. Sachant qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de marché des tests génétiques, puisque, encore une fois, ça concerne peu de personnes, peu de maladies. Et du coup, c'est les hôpitaux qui les font. C'est-à-dire les services de génétique moléculaire des hôpitaux qui font les tests. Et donc, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise privée qui font des tests pour la médecine. Il y a des entreprises privées qui font les tests pour le médico-légal. C'est-à-dire que toutes les empreintes génétiques qui sont faites pour le fichier national automatisé d'empreintes génétiques, pas toutes, mais une bonne partie des j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais des analyses sont faites dans des labos privés. Donc évidemment, derrière, il y a des enjeux financiers énormes, et qui sont aussi des enjeux de réponse à la crise de l'innovation pharmaceutique. Pour le faire bref, il y a une grande crise de l'innovation dans la pharma, et les big pharma, les grosses entreprises, espèrent que par l'ADN, ça va relancer l'innovation, et donc ça va être un facteur de croissance et de développement de renouveau de l'industrie pharmaceutique. Et du coup, les Américains sont extrêmement en pointe là-dessus, et à chaque fois qu'il y a des rapports éthiques pour savoir les questions qui sont posées autour de ces nouvelles technologies, ça commence toujours par investir dans la génétique, c'est bon pour l'économie, puisque il y a eu le projet de séquençage du génome humain. C'est un projet qui est présenté comme étant un investissement de 4 milliards d'euros du gouvernement américain, qui aurait eu un retour sur l'investissement en arrivant à 800 milliards d'euros de retour dans l'économie américaine. Donc ils disent, investir dans la génétique, continuer à aller à pousser ces industries-là, c'est un avenir de croissance économique, c'est un facteur de croissance économique important. Et donc, quand on réfléchit sur les questions éthiques qui se posent autour de ces généralisations de l'ADN, eh bien, il ne faut pas perdre de vue que derrière, il y a des enjeux économiques énormes. C'est comme ça que c'est posé dans les textes et les façons dont sont réfléchis les problèmes. Je ne dis pas, évidemment, pas du tout comme ça que je le pense, moi. Mais juste ce qu'il faut bien avoir en tête, que tous ces débats sont posés dans des logiques bénéfice-risque et que ceux qui défendent ça partent du principe qu'il faut défendre ça parce que c'est bon pour notre économie et que dans la concurrence internationale sur les enjeux de santé dans les centaines d'années qui viennent, il y a des guerres entre qui va avoir la main sur la santé, entre les technologies de santé qui sont développées en Occident, celles qui sont développées en Chine, celles qui sont développées en Inde, avec des émergences un peu partout de classes moyennes qui vont être demandeuses de santé. Et donc, avoir une technologie, si on impose que la génétique est une technologie de la santé de demain, on a aussi l'accès à ces marchés en tant qu'occidentaux, puisque c'est nous qui avons cette technologie. Donc, il y a aussi une guerre de technologie qui est en gestation derrière tout ça. Et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Parce que, évidemment, mais là, je vois que je suis très longue, donc je vais Je vais faire court. Il y a beaucoup de questions sur les enjeux autour de la sécurité des données. Il y a des énormes bases de données. Des questions sur quand on découvre des choses qu'on n'avait pas prévues sur l'ADN, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère toutes ces données incidentes qui sont générées? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que ces mesures de risque personnalisées où chacun a son risque? Ça veut dire quoi? Comment la société prend en charge cette personnalisation à l'extrême des risques? Ça veut dire que vous êtes responsable de votre santé? Si vous n'avez pas fait de sport et que vous n'avez pas mangé le régime qu'on vous avait donné, alors que vous aviez le gène machin bidule et qu'on vous avait bien dit que vous aviez un risque et vous ne l'avez pas fait, comment on va gérer? Qu'est-ce que ça pose sur la question de la collectivité et de l'individualisation des soins? Évidemment, il y a toutes les questions qui se posent autour du diagnostic prénatal. Aujourd'hui, en France, on diagnostique assez peu de maladies. Il y a principalement la trisomie qui est diagnostiquée pour toutes les femmes, la trisomie 21. Mais on est capable, les technologies qui sont disponibles depuis peu permettent, à partir d'une simple prise de sang chez la femme enceinte, de récupérer l'ADN du bébé et de l'analyser intégralement. Donc à 12-15 semaines de grossesse, on est capable, par simple prise de sang chez la mère, d'avoir tout l'ADN du bébé. Donc évidemment, vous imaginez bien toutes les questions que ça peut poser. Et je vais peut-être m'arrêter là, mais je pense que là, on est vraiment dans ce qu'on discutait tout à l'heure sur les puces, c'était dans quelle mesure ces technologies nous construisent un monde où on se retrouve à se poser des questions qui sont insolubles, auxquelles on n'a pas spécialement Enfin, c'est extrêmement compliqué de se positionner par rapport à toutes ces questions qui sont le fruit de ces technologies développées avec des discours toujours d'un merveilleux, d'une santé. Évidemment, on va vivre plus long. Enfin, on va jamais mourir, on va arrêter de mourir, on n'aura plus de problème de non-retraite. On va, il y a une espèce d'avenir merveilleux comme ça qui est proposé, avec des arguments scientifiques rationnels derrière qui sont en général assez faibles, des arguments économiques pour le coup qui sont très forts. Et après, des questions éthiques qui sont, me semble pour la plupart, vraiment très difficiles à résoudre collectivement. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, il n'y aura vraiment pas de temps pour les questions. Voilà.